Ben effectivement, j'ai commencé il y a un certain temps, ça fait 14 ans. J'étais en préparation pour le diaconat, et puis le responsable de l'époque m'a dit, oh, tu sais, les diacres qui ne sont pas chargés de faire le caté dans leur quartier versaillais aux petits jeunes gens de bonne famille, des Yvelines. Voilà. Et donc il faut qu'ils aillent plutôt à l'extérieur. Et donc, on va te donner une mission dans le domaine de la solidarité. Alors, c'est devenu ma mission quand j'étais ordonné diacre. Elle m'a été confirmée plusieurs fois. Je vous lis la dernière fois, c'était l'été dernier, Monseigneur Aumônier. Je vous confirme dans votre mission au service des personnes prostituées. Ah oui, il ne faut pas dire les prostituées. Il faut dire les personnes prostituées. Parce que sinon, vous les assimilez, vous les identifiez à ce qu'elles font et qui leur déplaît. Je vous confirme dans votre mission au service des personnes prostituées, dans le cadre de l'association Tamaris que vous avez créée, vous aiderez les personnes victimes de la prostitution à retrouver leur dignité, à se reconstruire humainement, socialement et spirituellement. Les trois adverbes sont importants, hein. Se reconstruire humainement, socialement et spirituellement. Alors, l'association Tamaris, elle accueille les personnes qui sont ou qui ont été dans la prostitution et qui souhaitent en sortir et qui viennent me demander de l'aide, sans aucune distinction d'origine, de race, de couleur, etc. J'ai rencontré plusieurs fois des collègues qui me disaient « Ah non, il y en a trop, il faut arrêter. Hein. » On a augmenté de 50% depuis l'année dernière. Aujourd'hui, on en suit. Yves, le marchand qui est là, il fait partie de l'association, donc comme il est chez vous, vous pourrez lui poser d'autres questions plus tard. On en a 250 en ce moment. Voilà. Et quand je dis personnes prostituées, alors actuellement c'est massivement des femmes, elles sont presque toutes nigérianes. Les 70 qui sont arrivées l'année dernière dans l'association sont pour 68 des nigérianes. Mais quand on a commencé au début, il y avait beaucoup de femmes d'Europe de l'Est, et puis quand on a commencé à aller dans la forêt de Saint-Germain, on a rencontré des équatoriennes et équatoriens, parce qu'il y a beaucoup de travestis. Voilà. Et puis on a eu aussi quelques hommes d'Afrique du Nord. Alors c'est des homosexuels, vous voyez. Bon, alors Tamaris, qu'est-ce que fait Tamaris? Il fait de la rencontre, de l'accueil, de l'accompagnement. Voilà. Et Tamaris propose son aide dans divers domaines, alors tous, administratifs, juridiques, linguistiques. Oui, on a une grosse activité pour leur apprendre le français. Toutes les Nigérianes, elles ne parlent qu'anglais, qu'elles ont appris à l'école, parce qu'entre elles, elles parlent le dialecte local, puisque sont presque toutes de la même région. Juridique, linguistique, médical, social, matériel et moral. Et puis cette aide, et je vous le montrerai, je vous le décrirai un petit peu, peut aussi être spirituelle, parce que c'est la personne tout entière qui est en jeu. Au bout de 6 mois, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que l'évêque et son conseil m'ont donné cette mission-là? Parce que oui, des personnes prostituées, il y en a dans les Yvelines, mais enfin, parmi les gens qui souffrent, parmi les gens qui sont exclus, c'est tout de même pas une majorité. Alors, j'ai trouvé une réponse dans l'Évangile. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie réponse à la question qui se posait. Hein. Mais j'ai été frappé par ce passage où, vous savez, les envoyés de Jean-Baptiste viennent dire à Jésus... Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est ce passage-là. Bon. Et alors Jésus leur dit, écoutez les gars, faites un peu marcher votre intelligence, regardez, hein, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Alors moi qui ai une formation scientifique, j'ai dit, mais je vais prendre la réciproque. Si la bonne nouvelle n'est pas annoncée aux pauvres, eh bien l'Église ne fait pas son boulot. Et donc, il ne faut pas laisser une catégorie de gens qui sont « pauvres », entre guillemets, voyez, sans s'en occuper. Et qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle pour une personne prostituée? Eh bien, c'est qu'on peut s'en sortir. Mais c'est difficile. Et donc, Tamaris est là pour les accompagner et les aider à s'en sortir. Voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, j'ai noté ce que dit le pape, hein. Ce qui animait Jésus en toutes circonstances n'était rien d'autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds. Et chez nous, j'ai envie de dire, et leurs besoins les plus urgents aussi. Hein. Parce que si on n'a pas à manger, si on ne sait pas où aller coucher, si on a peur de tout le monde, etc., et ben, il y a des besoins très urgents à satisfaire immédiatement. Alors, être chrétien ou se convertir, pour moi, c'est s'efforcer de voir les personnes et les situations avec les yeux de Jésus. Changer son comportement, se convertir, c'est essayer de voir comment Jésus verrait ces personnes. Et pas que les personnes prostituées d'ailleurs. Les personnes et les situations. Et puis ensuite agir en conséquence. Et j'ai noté que le pape a dit, je cite deux ou trois fois, je désire que les années à venir soient comme imprégnées de la miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu. Et puis il ajoute, enfin c'est moi qui le dis à sa place, il n'a rien inventé parce qu'il a pris ça dans le psaume 102, il te couronne d'amour et de tendresse. Voilà le fondement de notre action. Alors je vais vous dire qui sont les personnes accueillies, qui sont les bénévoles, et qu'est-ce qu'on attend des bénévoles. Puis après je vous laisserai trois petits messages pour la fin. Alors les personnes accueillies, alors c'est toutes des étrangères. Étrangères sans papier. Elles viennent demander de l'aide. J'en ai reçu une mardi, je veux dire. Il y en avait eu deux vendredi dernier. Je sais déjà qu'il y en aura une demain. Elles arrivent chez nous par le bouche à oreille. La fille qui s'en est bien sortie, ou qui voit qu'elle progresse, ou que c'est bien, ou que c'est sympathique, eh ben, elle en ramène d'autres. Et on n'a pas besoin d'aller les chercher. On continue à les visiter tous les 15 jours, celles qui sont dans la forêt de Saint-Germain. Mais en gros, celles qui étaient dans la forêt de Saint-Germain et qui voulaient s'en sortir, puis ce sont surtout des Équatoriens et des Équatoriennes, ceux qui devaient s'en sortir sont venus et on les a aidés. Mais celles qui nous arrivent en grande masse, c'est les Nigérianes, 20 à 30 ans. Elles viennent, elles nous demandent, je leur demande qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, qu'est-ce que tu sais de nous et qu'est-ce que tu viens chercher. Alors leur réponse, elles ont un petit peu de mal à dire ce qu'elles viennent chercher. Hein. Alors elles disent qu'elles viennent demander des papiers et qu'elles viennent apprendre le français. Bon, ça ne mange pas de pain. En fait, elles ont besoin de quelque chose de plus. Hein. Elles ont besoin d'une véritable aide, elles ont besoin d'amitié, d'amour et de tendresse. Voilà, à mon avis, ce qu'elles viennent chercher en premier. Voilà. Bon, alors, vous avez dit tout à l'heure, hein, la miséricorde, le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Voilà. Alors, je vais donner un exemple. Alors, celle-là, elle n'a pas entre 20 et 30 ans, mais c'est une des dernières avec lesquelles j'ai discuté. Puis, on va beaucoup s'en occuper maintenant, et je pense que dans 3 mois, elle aura des papiers. Je vais l'appeler Juliette, 40 ans, analphabète. Alors, une famille ultra pauvre. Mariée à 18 ans à un homme qui en avait 68. Elle était la quatrième femme. Autrement dit, le vieux, il s'était pris une gamine en plus. Alors avec lui, elle a eu 4 enfants. Et il a eu le bon goût de décéder en 2005. Alors aussitôt, les enfants, ses enfants à lui, l'ont chassé, elle. Donc j'essaye. Les enfants de ses premières, deuxième et troisième femmes, qui avaient 30 ans de plus qu'elle. Ils l'ont chassé pour récupérer le logement, enfin, c'est une case d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez ses parents, avec ses 4 enfants, et son métier, porteuse d'eau. Porteuse d'eau pour un restaurant. Ça vous donne un niveau social dans la région où elle habite. Porteuse d'eau. Et puis un jour, quelqu'un lui dit « Ah, oh, mais tu sais, j'organise des voyages pour aller en Europe parce que là-bas, il y a du travail, c'est bien payé, puis on peut envoyer de l'argent. » Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Elle part sans se renseigner. Avant de partir, quand même, elle a droit à la cérémonie vaudou. Alors les Nigériennes sont presque toutes passées à la cérémonie vaudou. Et c'est une cérémonie, alors il y a un sorcier, bon, on fait tout ce qu'il faut pour impressionner, mais dans laquelle, en gros, elles promettent de payer Alors on lui dit, tu paieras 50 000 euros. Bon, ça lui dit rien, comme vous, vous n'avez aucune idée non plus de ce qu'est la monnaie du Nigeria et de sa valeur par rapport à l'euro. Hein, moi-même, je ne le sais pas. Bon, alors, donc elle promet, et puis elle promet d'obéir, de faire ce qu'on lui dira, et elle promet de ne pas parler à la police. Et on lui dit que si jamais elle passait outre à ses promesses, eh bien, elle sera tuée. Et puis, en plus, pour matérialiser la chose, on la prend en photo, on lui fait des marques sur le corps, hein, des scarifications, voilà. Et donc, elle est persuadée que si elle ne respecte pas ce qui lui a été dit, eh bien, il va lui arriver malheur à elle et à sa famille, et que si elle n'a pas tout payé et qu'elle revient au pays, alors un pays ultra corrompu, hein, vous pouvez tuer quelqu'un, il suffit de payer la police et puis vous n'êtes pas dérangé, hein, elle sera tuée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Eh bien, de temps en temps, elle garde des bébés, quand tout va bien. Sinon, elle se prostitue dans Paris. Alors, dans la rue, c'est 20 et 30 euros. Vous voyez. Et parfois, elle va dans des foyers. Alors, vous voyez, travailleurs, là, c'est 10 euros la passe. Elle envoie 200 euros à ses enfants, enfin, dans sa famille, pour l'éducation de ses enfants, tous les mois. Et elle partage une chambre avec une copine à 150 euros. Autrement dit, cette femme de 40 ans, elle a une vie misérable. Alors, vous voyez, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont toujours des femmes pauvres de pays pauvres. Voilà. Quand vous avez compris ça, vous savez qui sont les personnes. Moi, je ne connais pas les call girls parce qu'on n'en rencontre pas. Je ne dis pas que celle dont on s'occupe, c'est l'unique catégorie, mais enfin, c'est celle qu'on voit, nous, elles sont en grand nombre. Leur situation dans leur pays n'était pas brillante, c'est pour ça qu'elles sont parties. Elles ont connu pendant des années un monde de mensonges, de violences et d'humiliation. Les récits que j'ai sont épouvantables. Mais c'était déjà pareil avec les filles d'Europe de l'Est que j'avais. Hein. Il y en a qui sont devenues de bonnes amies, mais elles ont été torturées comme le faisait la Gestapo, et ceci dans Paris. Place Clichy, par exemple. Alors, lorsqu'ils viennent nous voir, même si elles n'ont pas rompu tous les liens avec leur proxénète, ce qui est quand même le cas assez général, elles ont généralement rompu les liens, eh bien, elles vivent dans la peur et dans l'inquiétude. Alors, elles ont peur de la police, parce qu'elles n'ont pas de papier, et qu'elles ont déjà été arrêtées. Elles ont peur des clients, elles ont peur des voyous qui en veulent à leur argent. Elles sont dans un pays dont elles ne connaissent pas la langue, où elles ne comprennent pas les lois, et où tout le monde les maltraite ou les exploite, à commencer par leurs compatriotes. Par exemple, je vais t'aider à aller faire une demande d'asile à l'OFPRA, c'est 200 euros. Il faut avoir une adresse pour demander des papiers, elles n'ont pas d'adresse, sont toutes hébergées. L'hébergeant ne veut pas dire qu'il héberge quelqu'un qui gagne de l'argent. Donc, l'attestation d'hébergement, ça s'achète. Ça vaut entre 80 et 200 euros. Et alors, des personnes qui n'ont rien, elles sont exploitées en permanence. Et puis, elles ont peur d'être envoyées, et bien parce qu'elles sont menacées de mort suite au rituel vaudou qu'elles ont subi. En fait, elles luttent pour leur survie, et elles sont dans une très grande solitude. Voilà pour les personnes. Alors, les bénévoles. Ben, les bénévoles, alors, ils viennent pour rencontrer et accompagner. Mais d'abord, ils sont touchés par les situations qu'ils voient. Voilà. S'ils ne sont pas touchés, ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Ils n'agissent pas d'abord en fonction de normes ou de règlements, mais en cherchant l'intérêt des personnes. C'est parfois contradictoire avec les lois. Ben, moi, je n'hésite pas, de temps en temps, à les transgresser. Et ils apportent de la chaleur humaine, ce dont elles ont besoin en priorité. Tout bénévole peut être admis, quelle que soit son appartenance politique ou religieuse, à condition d'adhérer à notre projet associatif. Oui. Exemple. J'ai une collègue qui est en même temps une très bonne amie, qui dit qu'elle n'a pas la foi. Elle n'a pas la foi parce que, à l'adolescence, elle a été rebutée par la religion en raison de l'éducation qu'elle recevait au collège. Elle était des collèges religieux, alors ça, ça l'a dégoûtée de la religion. Son mari est pratiquant, il va à la messe toutes les semaines. Alors elle, c'est quand même la charité personnifiée. Et bien tous les 15 jours, elle apporte le déjeuner, le mardi, pour la trentaine de personnes qui viennent à l'évangélisation. Elle n'est pas représentative des bénévoles parce que la plupart sont cathos et pratiquants, presque tous. Elle n'est pas représentative parce qu'elle n'a pas la foi, mais elle est représentative parce qu'elle adhère à l'idée que proposer un accompagnement spirituel, ça fait bien partie de la mission. Vous voyez ? Oui, c'est important pour elle, et je vais en reparler tout à l'heure, et donc il faut le leur donner. J'ajoute aussi qu'elle est venue lire l'Évangile et qu'elle a porté sa Bible pendant 3 ans de suite, hein, quand même, et qu'elle posait des questions extrêmement pertinentes. Voilà. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église, c'est ce que dit le pape. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Là, je vous donne 2 exemples, c'est des exemples un peu anciens, c'est des choses qu'on a corrigées après. Alors, des exemples de 2 bénévoles, toutes les 2 très bonnes cathos faisant des tas de trucs dans leur paroisse. La première, ingénieure, 50 ans, n'ayant pas exercé le métier d'ingénieur, bonne organisatrice. Alors, je l'avais chargée des cours de français, parce qu'à l'époque, on avait des filles d'Europe de l'Est, et on faisait des cours de français, des petits cours d'une heure avec 5, 6 élèves. Puis un jour, elle me dit, alors ça marchait bien, et un jour, elle me dit, oh ben tu sais, hein, quand il y a des absences, hein, je les sermonne, et puis la fille qui est absente 3 fois de plus, je l'exclus. Mais je lui ai répondu, eh ben, c'est certainement ça qui va l'aider à se remettre debout. Hein. Eh bien, elle n'est pas restée, l'année suivante, elle est partie, et au fond, elle n'avait rien compris. Une seconde, parisienne, veuve, 70 ans, énergique, très active dans sa paroisse. Elle faisait une multitude de choses. Alors, je l'avais chargée de donner des cours à 3 équatoriens. Alors, il devait y avoir un homosexuel et 2 travestis, ou l'inverse. Alors, pendant plusieurs mois, elle m'a dit, moi, puis elle disait aux autres, tu sais, je ne sais pas si je vais rester, hein, parce que ici, je perds mon temps. Ils sont toujours en retard, ils sont très souvent absents et ils ne préviennent jamais. Moi, je perds mon temps alors que j'ai tellement d'autres choses à faire. Alors, mes collègues me disaient, tu sais, il faut quand même que tu parles avec elle. Hein. Alors, je lui ai dit un jour, bah, écoute, si ça ne te plaît pas, bah, tu t'en vas. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas d'autres professeurs à leur donner à eux. Alors elle est restée, et puis un jour j'ai appris qu'elle faisait un accompagnement avec l'un d'eux pour faire des démarches administratives. Et puis à partir de ce moment-là, quand elle venait, eh bien, elle était devenue souriante, et puis elle avait le temps de prendre le café. Voilà. Et bien, ce jour-là, elle a compris ce que c'était que s'occuper des gens. Ce n'est pas seulement faire une prestation, voilà. C'est se faire proche d'eux. Voilà. Alors, je vais vous passer 3 messages. Oui, parce que je crois qu'il faut qu'on avance.
J'ai le temps, après.
Ah, j'ai le temps. Je vous inflige 5 minutes de plus, alors. J'ai commencé il y a 14 ans. Alors, c'était une mission à l'époque non écrite. Alors, ça m'allait bien. Hein. Veuillez vous occuper des personnes prostituées. C'était pas écrite, donc... J'avais carte blanche, hein, je poursuis de consigne d'ailleurs. Comme j'étais sans expérience, ben, il fallait bien que j'apprenne, alors j'ai commencé au mouvement du nid. Je les ai quittés 2 ans plus tard. J'avais remonté quand même la délégation de Paris qui était évanescente. Et je suis parti parce que je n'étais pas d'accord. Pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Par exemple, j'avais demandé, très peu de temps après mon arrivée, peut-être un mois après, au début je regardais surtout, hein, et j'avais dit... Est-ce qu'on peut les inviter chez soi ? Réponse, jamais ! Et c'est interdit par le mouvement. Bon, merci, de toute façon je ferai ce que je veux. Donc j'ai passé août, je l'ai pas dit. Hein. Alors, la délégation de Paris, à l'époque, était dirigée par trois femmes assez âgées, en fait trois vieilles filles. Il n'y avait pratiquement plus d'activité, et quand on avait deux personnes à la permanence, on était content. Parce qu'on ne faisait rien pour elles. On ne faisait rien parce qu'ils ne voulaient pas se salir les mains, donc pas entamer de démarches administratives, rien quoi, on faisait rien. On prenait le thé ensemble, bavardait. Ensuite, le président national m'a demandé de. Alors, il m'avait demandé de remonter la délégation de Paris, et puis ensuite, il m'a demandé de créer une délégation à Versailles pour les Yvelines. Bon, j'étais d'accord, bien sûr. Puis il m'a expliqué que la priorité, c'était la prévention et la formation des acteurs sociaux, c'est-à-dire les assistantes sociales, les policiers, les juges. Enfin, hein. Bon, j'étais d'accord, hein, pas le con. Je vais faire de la prévention aussi dans les lycées, bien. Mais alors, comme condition, il mettait qu'il fallait qu'on se sépare, moi puis tous les Versaillais que j'avais amenés, quand même, pour remonter la délégation de Paris, qu'on se sépare de Paris. Et alors, j'ai dit, mais attends, mais à Paris, mais moi, je m'occupe de 50 personnes en ce moment, pour nous, quoi. Ah non, ça passe, pourtant, ils vont se débrouiller. Ah non, 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 ils n'y arrivaient pas avant, ils n'y arriveront pas, mais maintenant, hein. Et moi, les gens auprès desquels je me suis engagé, je ne vais pas les laisser tomber. Alors il m'a fait un peu de chantage, et bien je lui ai dit, ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Alors j'ai créé une autre association, avec tous ceux que, ben, qui m'ont suivi. Et puis lorsque tout était en place, c'est-à-dire au bout d'un an et demi à peu près, les locaux, les subventions, les autorisations administratives, etc., et bien j'ai été évincé, alors ça arrive dans les associations, hein, par un groupe qui voulait prendre le pouvoir. Et en fait, j'avais rien vu venir ou j'avais pas été assez attentif. Je ne m'étais pas rendu compte qu'un certain nombre de gens étaient venus pour d'autres raisons que celles d'aider les personnes. Alors, d'autres raisons très, très, très variables. C'est assez curieux. Et le prétexte de bonne éviction, c'est que l'évangélisation que j'avais commencée et qui marchait très bien, eh ben, leur déplaisait. Et c'était des cadeaux. Et la plus acharnée, elle allait à la messe tous les jours. Comprenne qui pourra, hein, mais. Il y avait même la mère d'un prêtre. C'était pas elle qui allait à la messe. Hein. Alors j'ai créé Tamaris, et puis alors on a quand même analysé pourquoi ça n'avait pas marché. Et donc on est beaucoup plus prudent avec les gens qui viennent. Et puis surtout, on a fait un projet associatif qu'on donne à ceux qui pensent venir et on leur demande s'ils sont bien d'accord. Voilà. On dit, aujourd'hui, les points sont bien mis sur les i, on est tranquille. Et ça marche bien. Alors, je vais vous passer trois messages. Premièrement, les bénévoles ne sont pas des travailleurs sociaux. Deuxièmement, c'est la personne tout entière qui est concernée. Et troisièmement, il y a quelque chose qui est inacceptable. Alors, les travailleurs ne sont pas des travailleurs sociaux. Les bénévoles ne sont pas des travailleurs sociaux. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les travailleurs sociaux. D'abord parce qu'on travaille avec eux. Et on ne peut pas... C'est vers eux qu'on oriente les personnes, par exemple, pour trouver du logement, pour chercher des emplois, enfin, pour beaucoup de choses. Hein. Tiens, on s'occupe... on travaille avec les hôpitaux pour ceux qui sont malades. Yves Lemarchand, là, est un grand spécialiste, justement. Toutes celles qui ne vont pas bien, on les lui envoie, et lui, il trouve... quel est le bon hôpital qu'il faut, il prend les rendez-vous et il les accompagne. Mais le travailleur social, il lui est interdit de nouer des contacts personnels avec les personnes dont il s'occupe. Et c'est normal. Lui, il est payé, il doit rendre des comptes, mais il sépare sa vie professionnelle de sa vie familiale. Eh bien, le bénévole, lui, fait aussi des prestations, mais d'abord, il écoute... il conseille, il accompagne. Il accompagne, c'est-à-dire il se fait le compagnon au sens du bon samaritain. Vous voyez ? On arrive, et puis on ne sait pas trop à quoi on s'engage. On accompagne quelqu'un, puis voilà. On met le petit doigt dans le voilà. L'autre jour, il y a eu un baptême, enfin, j'ai baptisé la fille d'une femme de l'association. Alors, il dit, il faut que tu te trouves une marraine quand même. Hein. Déjà, il n'y a pas de peur, elle est toute seule. Enfin, et alors, elle se trouve une marraine, ben, c'est quelqu'un du choix catholique qui l'avait aidée. Enfin, c'est intéressant de voir. Elle connaît aussi d'autres Africains, etc. Mais elle a été chercher la personne du choix catholique qui l'avait aidée. Et cette personne-là me téléphone, me dit, à quoi est-ce que je m'engage? Alors là, je lui dis, ben, vous savez, hein, nul ne peut le dire. Hein. Je vais devenir la marraine de cette petite fille-là. Ben, voilà. Alors, je dis que l'essentiel, c'est de les encourager et de les aimer. Voilà. C'est ça l'essentiel. Les aimer sans condescendance, mais vraiment à égalité. Avec humilité. Alors vous lirez ce que le pape Benoît XVI dit sur l'humilité, c'est très très bien. Et je dois dire qu'on est payé en retour. Parce que donner, aimer, c'est donner et recevoir. La preuve que ça marche, c'est qu'on reçoit aussi. Et vous savez, un jour à la télévision, c'était sur Antenne 2, il y a longtemps déjà, un journaliste, c'était en direct, un journaliste me dit, « Ah bon, alors, les bénévoles de votre association, pourquoi viennent-ils ?» Alors oui, on déconne la question, hein. Les bons Versaillais, cathos, ils viennent faire leur BA auprès de ces pauvres gens, etc. Et je n'ai pas du tout pensé à ces questions-là, mais c'est parti comme ça. Je lui ai dit, mais vous savez, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'ils restent? Eh bien, il y en a qui sont avec moi depuis plus de 13 ans. Et ceux qui partent, ils ont des raisons de partir. Par exemple, tous les ans, on reçoit un séminariste. Ben, lui, il fait une année, au bout d'une année, il s'en va, hein, parce qu'il a d'autres études. Il vient une demi-journée par semaine. Ils sont remarquables, les séminaristes, d'ailleurs. On en est à notre 10e ou 11e cette année. C'est une très bonne expérience pour une très bonne formation. Voilà. En ce moment, on a des reporters qui sont en train de tourner un film qui passera sur Antenne 2. Je vous en donne la primeur. Hein. Ma femme n'est même pas au courant. Et au mois de mars, c'est au jour du Seigneur. Et il me disait, mais finalement c'est très différent de ce qu'on voit dans les autres associations chez vous. Et on a l'impression que vous êtes un peu leur famille. Et bien je crois que c'est vrai. Et alors il me disait la semaine dernière, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont accepté très facilement qu'on les filme. Ouais. On a posé la question à ceux qui sont dans la forêt et qui ne viennent pas d'être pas chez nous. Hein. Justement ceux qu'on rencontre, ça a été posé, la question leur a été posée mardi. Ils ont tous dit non. C'est-à-dire, est-ce que vous accepteriez qu'un reporter vienne avec sa caméra? Non. Eh bien, chez nous, pratiquement, oui. Et ils ont dit, ben, c'est parce qu'ils vous font confiance. Ils ont tout compris, ces reporters-là. Et c'est vrai, vous savez, quand on a passé 4 heures ou 6 heures ensemble à faire la queue dans une préfecture, eh bien, ça crée des liens. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre nous sont devenus les parrains ou les marraines, même toi, hein, quand il y a des baptêmes à faire, et puis, ou témoins de mariage. Enfin, moi, j'ai été 2 fois témoin de mariage. Voilà. En tout cas, on a une grande satisfaction, vous savez, de les voir progresser, même si c'est un tout petit progrès. On se dit, mais vraiment, on ne perd pas notre temps. Alors, deuxièmement, premièrement, les bénévoles ne sont pas des travailleurs sociaux, hein, ils sont chargés de nouer des contacts. Moi, la première chose que je fais, c'est de donner mon numéro de téléphone, de nouer des contacts et puis de les aimer, et puis de leur témoigner de la tendresse. Moi, j'hésite pas à leur mettre la main sur l'épaule, autour du cou, voilà, hein, qu'elles se sentent bien. Deuxièmement, c'est la personne tout entière qui est concernée. Alors, je vous ai dit tout ce qu'on fait, hein, mais l'aide est peut-être aussi spirituelle. Parce que ces femmes-là ne rejettent pas du tout leurs origines chrétiennes. Les équatoriens de la forêt de Saint-Germain non plus. Moi, j'en ai vu qui étaient en train de lire Saint-Jean, entre deux passes. Ce n'est pas du baratin, je l'ai vu 2 fois. Et puis, ça fait des années que j'y vais plus dans la forêt de Saint-Germain. Donc, on dit, vous voyez, ça remet en cause des idées toutes faites qu'on a. Hein. Je pourrais vous donner d'autres exemples aussi. Un exemple, Adoun, que tu connais bien, 50 ans. Elle a 4 enfants au pays. Elle a fini par avoir ses papiers, maintenant elle a même une carte de résident, elle est femme de ménage, hein. Femme de chambre. Hein. Alors, il y a quelques années, je lui donnais des cours de français. Alors, avec les Africaines, les cours de français, c'est des cours particuliers. Elles apprennent lentement, elles parlent de très très bas. elles sont pas au même niveau, elles ne comprennent pas avec la même vitesse. Enfin, c'est... Donc, c'est des cas particuliers, et pendant quelques temps, c'était moi, enfin, elle faisait partie de mes élèves. Alors, je lui disais, pour la faire parler, bah, raconte-moi ce que tu fais ce soir. Alors, je prends le train, telle station, je change à tel endroit, enfin, conversation courante. Et alors après, je dis, et après, et bien après, je rentre chez moi, après, je fais la cuisine, je mange, après, je regarde la télé, et après, je prie 30 minutes, et puis je dors. Et bien entendu, je prie 30 minutes. Voilà. Donc, dans leur détresse, la foi et la prière sont un grand secours. Alors, en 2005, alors j'avais commencé en 2002, et puis alors je me disais, bon, alors très bien, c'est ma mission de diacre, alors je viens, je fais du social, je fais des papiers, je les accompagne dans les préfectures, je fais des dépôts de plaintes, voilà. Oui, mais alors le spirituel là-dedans, rien. Et puis un soir, il y a des filles qui étaient restées à la permanence, qui discutaient, il était 20h. Hein. Et alors, je m'approche, et puis elle parlait d'un psaume. Alors, j'ai dit, mais tu connais les psaumes, toi ?
Oui.
Et tu lis la Bible ?
Oui.
Et là, elle ouvre son sac, elle me sort sa Bible. On peut faire l'expérience ce soir ? Mm-hmm. Voilà. Alors, avec elle, ben, alors je dis, mais si ça vous intéresse, on pourrait lire l'Évangile ensemble.
Ah, oui.
Et donc, avec ces trois-là, eh bien, on a décidé qu'on allait le faire toutes les semaines, que ça durerait une heure, qu'on déjeunerait ensemble, à l'époque c'était dîner, etc. Et puis qu'on lirait l'Évangile. Et donc ça fait, je ne sais pas combien, 8 ans, 9 ans, plus de 9 ans. Donc on lit l'Évangile de l'année ABC, donc cette année on est en train de lire Saint-Luc. Et on lit tout l'Évangile en 40 réunions. Une des filles que j'étais baptisée, j'avais dit ça à mon curé, elle est venue 65 fois lire l'Évangile. 65 fois une heure. Bon. Et donc on a monté ça. Alors, ben, il y a eu 42 séances en 2015. Mardi dernier, parce que c'est le mardi à midi que ça se passe, elles étaient 22. Et puis, 6 bénévoles, je crois, on était 28. Et dans ces réunions, il n'y a ni enseignant ni enseigné. Chacun cherche à découvrir qui est Jésus. Voilà. Et d'ailleurs, elle parle à tour de rôle, hein, je leur donne la parole. Eh bien, j'ai observé au fil des mois l'évolution spirituelle des bénévoles. Hein, qui arrivaient en disant « je sais », etc. Puis finalement, ils se font humbles. Et il y en a un, c'est le plus âgé de l'association, il a plus de 80 ans, mais il vient de quand même donner des cours de français. Il arrive vers 10h30, il repart à 15-16h le mardi. Et les filles l'appellent papy. Hein. Eh bien, et moi, il m'a dit, c'est le meilleur moment de la semaine. C'est cette heure d'évangélisation avec elle. Voilà. Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire ce qu'a écrit Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est amour ». La charité ne doit pas être un moyen au service de ce qu'on appelle aujourd'hui le prosélytisme. L'amour est gratuit, il n'est pas utilisé pour parvenir à d'autres fins. Moi, je n'essaye pas de leur dire « vous êtes pas baptisé, faites-vous baptiser » ou « vous êtes évangéliste, venez chez les catholiques », jamais. Alors Benoît XVI dit « cela ne signifie pas toutefois que l'action caritative doit laisser de côté, pour ainsi dire, Dieu et le Christ ». C'est toujours l'homme tout entier qui est en jeu. Ben, je crois que tout est dit là. Alors, je termine avec l'inacceptable, puis après je vous ferai une petite conclusion. L'inacceptable, c'est une phrase que je trouve catastrophique et qu'on entend tout le temps. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ben, vous l'avez entendu, ça va. Je trouve que c'est honteux de dire ça. C'est un slogan qui ferme à la fois l'intelligence et le cœur. C'est-à-dire, je ne veux pas voir. Et je trouve que le pape en parle, parce qu'il dit, toujours dans son introduction à l'année de la miséricorde, « Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde. » Ouvrons nos yeux. Les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l'aide. » On ne dit pas qu'il faut tout faire, on ne dit pas... mais au moins, entendre leur cri. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous, afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, de l'amitié et de la fraternité. C'est quand même la fraternité, c'est quand même la devise de la République française. Hein. C'est un mot qui n'est jamais prononcé dans aucune campagne. Vous avez remarqué ? Liberté, égalité, alors on s'en gargarise, mais fraternité, jamais. Et le pape ajoute que leur cri devienne le nôtre, et qu'ensemble nous puissions briser la barrière d'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. Voilà. Alors, conclusion, eh bien moi je suis admiratif. Admiratif devant le courage de toutes ces filles et leur volonté de retrouver une vie normale. Parce que c'est difficile pour elles, c'est vraiment difficile, et puis elles sont seules. Et puis je suis admiratif devant la disponibilité, le dévouement et la gentillesse des bénévoles. On est 28, je crois. Alors je vais achever par une citation. Je ne suis pas sûr des termes. Je crois qu'elle est de sœur Emmanuel, mais je ne suis pas très sûr non plus. Et peut-être que vous allez me dire si c'est ça ou pas. Alors, elle parlait avec quelqu'un qui constatait avec elle une situation de grande misère et qui lui disait « Mais qu'est-ce que Dieu fait pour tous ces pauvres gens ?» Vous connaissez la réponse ? Elle lui a répondu « Il nous a mis sur leur route, vous et moi. » Voilà. On peut dire aussi « Qu'est-ce que Dieu fait pour nous convertir ?» Eh bien, il met les pauvres sur notre route. Voilà. Amen. Amen.